Le journal vous est présenté par Rosalie Lafarge.
Bonjour à tous. Le pape doit s'exprimer dans une heure. Un discours qui vient clore le sommet sur la pédophilie au Vatican. Depuis 3 jours, les évêques écoutent des témoignages de victimes d'abus et des membres de la hiérarchie de l'Église. Et hier soir, Mathilde Imberti, ils ont demandé pardon.
Les évêques font pénitence dans la salle royale du palais apostolique. Ils demandent pardon pour leurs fautes dans les scandales d'abus sur mineurs. Ils viennent d'entendre une nouvelle fois une victime leur dire sa souffrance, un homme chilien.
Quel que soit l'abus, c'est l'humiliation la plus grande qu'un être humain subit. Quand on vit l'abus, on voudrait mettre fin à tout, mais ce n'est pas possible. Ce qui fait le plus mal, c'est la certitude que personne ne te comprendra et cela reste en toi pour toute la vie.
La victime entame au violon un air de Bach pour l'assemblée. Le pape ému prend la parole. « Nous devons examiner où des actions concrètes sont nécessaires », dit-il. Répète-t-il plutôt, car du concret, il en promet depuis le début du sommet. Quelle forme pourront prendre ces mesures? On s'achemine probablement vers la rédaction d'un vademécum, un rappel noir sur blanc des règles à suivre pour les évêques. Des mesures sont envisagées aussi pour aller vers plus de transparence. Les évêques les plus libéraux réclament des statistiques précises sur les abus et la levée du secret pontifical. Le cardinal Marx en particulier, président des évêques allemands, est proche du pape qui a secoué l'auditoire hier en reconnaissant que l'Église avait détruit des dossiers empêchant ainsi la justice de passer.
La correspondante de France Culture à Rome, Mathilde Imberti. Juan Guaido appelle la communauté internationale à n'écarter aucune option pour libérer le Venezuela. L'opposant à Nicolas Maduro n'arrive pas à faire entrer l'aide humanitaire dans son pays. Des heurts à la frontière brésilienne ont fait 2 morts hier. Ils sont 5, dont le sortant Macky Sall. Le Sénégal choisit son président aujourd'hui. Le chef du gouvernement espagnol est lui en France. Pedro Sanchez à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Puis Collioure, côté Pyrénées-Orientales. Un déplacement, Mathieu de Taillac, à l'occasion du 80e anniversaire de l'exode des Républicains à la fin de la guerre civile.
En dehors des maires des localités concernées, il n'y aura aucune autorité politique française pour accueillir Pedro Sanchez. Le déplacement du chef du gouvernement est hispano-espagnol, indique son équipe, et Madrid n'a pas associé Paris à sa préparation. À Montauban, Sanchez se recueillera sur la tombe de Manuel Azaña, le dernier président de la République espagnole avant le franquisme. À Collioure, sur celle d'Antonio Machado, célèbre poète républicain. À Argelès, il se rendra au mémorial du camp qui raconte les conditions dans lesquelles des dizaines de milliers de républicains espagnols ont été reclus après avoir passer la frontière. Un déplacement qui doit souligner les valeurs de la tolérance et du refus des extrémismes, indique l'équipe de Sanchez. Autant dire un voyage politique, quelques semaines avant le début de la campagne électorale et face à l'essor du parti d'extrême droite Vox. Et un hommage bien sûr aux Républicains, 80 ans après leur exil. Un hommage en France, alors qu'aucune cérémonie de ce niveau n'a été encore organisée en Espagne, où la guerre civile et le franquisme continuent de diviser la population.
Après Emmanuel Macron hier, le salon de l'agriculture reçoit la visite du parti Les Républicains aujourd'hui. François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux européennes, porte de Versailles avec ses colistiers Agnès Evren et Arnaud Danjean. On respire un peu mieux ce dimanche, mais on vient de passer à un bel épisode de pollution, notamment en Île-de-France. Une accumulation de particules fines dans l'atmosphère à cause des voitures et du chauffage. Et c'est peut-être par là qu'on peut commencer à agir, Élodie Rabel.
Pour enrayer durablement la pollution de l'air, il faut évidemment prendre de nouvelles habitudes, moins prendre sa voiture, ne plus se chauffer au bois, bref, une somme de gestes individuels. Mais pour Olivier Blond, président de l'association Respire, il faut aussi agir collectivement afin d'adapter notre quotidien à l'urgence sanitaire.
Ça peut être encore plus malin d'une certaine manière, ça peut être faire du télétravail. Le télétravail, c'est vraiment la solution gagnant-gagnant-gagnant pour lutter contre la pollution de l'air, parce qu'évidemment, c'est des voitures en moins, ça veut dire que c'est des embouteillages en moins pour les autres. Ça veut dire que c'est de l'essence dépensée en moins par les gens, mais aussi pour les entreprises, qu'on est plus productif parce qu'aujourd'hui, toutes les études montrent que les gens qui sont en télétravail, en fait, travaillent mieux que quand ils sont au bureau.
Cependant, toute mesure n'a que peu de poids selon lui si les pouvoirs publics ne s'emparent pas de la question afin d'élaborer un vrai plan de lutte contre la pollution de l'air.
Ce qui manque vraiment, c'est une action gouvernementale efficace pour sauver des vies. Il y a 30 ans, il y avait 15 000 morts par an sur les routes, même un peu plus. On a réussi à diviser cette mortalité par 5 en 2-3 décennies parce que l'État a dit « Ok, on va mettre les moyens ». Il faut encore une fois que l'État y prenne au sérieux ce qui est aujourd'hui une crise sanitaire majeure. C'est vraiment une question de courage politique.
Selon Santé publique France, la pollution aux particules fines tue 48 000 personnes chaque année, soit presque un décès sur 10.
Élodie Rabel, Jane Kelly fredonnant, dansant avec un parapluie, scène mythique de Dansons sous la pluie. On la doit, comme tout le film, à Stanley Donen, le maître américain de la comédie musicale, est mort mort à 94 ans. Nul doute qu'un hommage lui sera rendu ce soir à la 91e cérémonie des Oscars à Hollywood.